les interviews en vrac à Bloody Fleury. Bloody Fleury est un festival de polar qui a eu lieu le 1er et le 2 février 2020. J'étais présent en tant que bénévole où j'ai pu interviewer 22 auteurs et 3 librairies. Marie Alino. Féministe convaincue et passionnée de littérature de jeunesse, Marie est une lectrice touche-à-tout qui aime autant les univers dystopiques que la fantaisie médiévalisante. Le point commun à tout ça ? L'histoire, future ou passée, que l'on retrouve au cœur de la série Orphea Fabula. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la littérature jeunesse ?
Alors moi, j'ai toujours voulu écrire de la littérature jeunesse. Alors il y a plusieurs littératures jeunesse quand même, faut pas mettre... Enfin, faut quand même comprendre que c'est une sorte de spectre, la littérature jeunesse. Il y a vraiment les premières lectures, les tout cartons, avec parfois pas du tout de texte. Après, moi, c'est ce que je fais pour l'instant, c'est du junior. Et puis il y a le young adult, tout ça c'est regroupé sous l'étiquette jeunesse. Moi j'ai toujours voulu faire de la jeunesse, mais plutôt young adult. Et en fait je suis tombée dans le junior, donc la tranche que j'écris c'est 8-13. Je suis tombée dans la jeunesse un peu par hasard parce que mon parcours est un petit peu différent d'autres auteurs. J'ai jamais envoyé de manuscrit en fait à un éditeur. J'étais lectrice pour une maison d'édition, donc je lisais des manuscrits, je lisais des livres en anglais pour faire des fiches de lecture. Parce que les éditeurs n'ont pas le temps en fait, de lire tous les manuscrits qui leur sont proposés. Il faut faire un filtre. Enfin, donc c'est nous le premier filtre. Et donc en faisant les fiches de lecture, c'est un peu par hasard, quoi. C'est la chance. J'ai montré mes skills à l'éditrice, quoi, qui m'a dit bah, « on voudrait faire un roman avec toi ». Et voilà, donc je suis tombée. Enfin, j'étais embauchée par une maison d'édition jeunesse, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans la jeunesse junior 8-13, voilà.
Vous vous dites féministe, est-ce que vous retranscrisez votre féminisme dans vos œuvres ?
Oui, alors je pense que quand on est militant, c'est très difficile de faire abstraction des luttes qu'on défend, enfin des causes qu'on défend et de nos luttes. C'est un peu comme le sol sur lequel on marche, il n'y a pas vraiment de moyen de faire abstraction de nos causes. Moi, je suis féministe et je ne pourrais pas écrire un roman qui ne soit pas féministe. Donc, ce que je fais, moi, c'est ce que j'appelle du féminisme sous-marin. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans la littérature jeunesse, c'est que nos lecteurs sont doubles. Donc on écrit pour des enfants, mais ce ne sont pas les enfants qui achètent les livres, ce sont les parents. Et il y a beaucoup de parents qui sont encore très réfractaires à l'idéologie féministe. Et pour moi, c'est très important de véhiculer des idées auprès des enfants qui soient progressistes. Et je trouve ça plus important de réussir à rentrer dans le foyer de l'enfant, de faire rentrer dans le foyer de l'enfant des romans qui sont féministes et progressistes sur plein de sujets liés au féminisme, mais pas que, plutôt que d'afficher un féminisme frontal. Du coup, dans toutes mes aventures, tous les Orphéas, ce sont des romans d'aventure où l'enquête, l'action et l'humour sont prépondérants, donc ce sont les éléments qui sont les plus mis en valeur dans le texte. Mais il y a toujours en filigrane en fait une dénonciation féministe. Donc par exemple, le premier tome se passe en Égypte antique et je parle de la Damnatio Memoriae, donc toutes les reines égyptiennes dont la mémoire a été effacée. Voilà, ce sont des petits exemples, des thèmes en fait qui sont abordés, mais au fil de l'intrigue. Pour ne pas avoir un féminisme frontal, mais pour faire réfléchir les enfants une fois qu'ils ont lu le livre, engager une discussion avec les parents les plus ouverts d'esprit, et pour ceux qui auraient condamné le livre s'ils avaient su, voilà, avoir quand même fait réfléchir l'enfant par lui-même, même si ce sera, je pense, une résonance qui sera plus tard, parce qu'il n'aura pas les outils nécessaires au moment où il va lire le livre pour avoir décodé toutes les facettes de mon message.
J'ai vu que vous aviez collaboré avec Digli pour Wicca et Miss Patty pour Orphea. Qu'est-ce que c'est de travailler avec ces dessinatrices, surtout Digli, car elle ne fait pas souvent de dessins pour enfants. Comment ça s'est fait ? Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Alors, déjà, Digli, je pense qu'il faut voir qu'elle a une évolution énorme. Moi, je l'ai connue quand j'étais ado, et elle dessinait déjà sur son blog, mais des dessins beaucoup plus comme ce qu'elle a fait pour Wicca. Et elle a eu une évolution spectaculaire, donc elle a quand même une variété de styles, ce qui est quand même le cas pour beaucoup d'illustrateurs. Elle illustre aussi chez Rajo des romans comme Les Quatre Sœurs. Alors, comment ça s'est passé? Digli, je la connais professionnellement depuis beaucoup plus longtemps que... depuis largement avant l'écriture de Wicca, parce que j'ai organisé un séminaire de littérature jeunesse, féminisme dans la littérature jeunesse à l'ENS quand j'étais élève là-bas. Et elle était venue parler du problème, par exemple, de grossophobie dans l'illustration jeunesse. Donc, on se connaît... de nos actions militantes d'abord, et ensuite elle avait déjà illustré un roman chez Pulp Fiction, donc la collaboration s'est faite assez naturellement. Ça a été une évidence de proposer à Digli, parce que c'est une illustratrice féministe Wiccan elle-même, qui pratique la magie en tant que mode de vie chez elle, avec une grande connaissance des pierres, des astres, des bienfaits, enfin de la connexion de l'humain avec la nature. Donc c'était une évidence. Pour Miss Patty, elle avait déjà collaboré avec Pulp Fiction aussi pour les titres Poule, Renard, Vipère. Donc là aussi, ça a été bon. C'était mon premier roman, donc j'avais pas forcément d'idée d'illustrateur. C'est mon éditrice qui a proposé tout de suite cette illustratrice. Ça a collé assez vite. Ce sont des deux illustratrices qui, en tant que personnes, sont très sympas. Donc la collaboration engendre forcément une amitié. Le travail est très officieux, très, très détendu, même si ça reste très professionnel évidemment. Mais moi par exemple, j'échange beaucoup avec elle sur mes inspirations, et c'est plus que le texte, ça va être les inspirations derrière le texte qui vont les inspirer, parce qu'elles vont comprendre l'idée derrière les mots mieux, plus facilement avec des images, etc., et voir tout de suite ce que j'ai voulu faire. Donc je crée des tableaux Pinterest de mon côté en écrivant, et en fait elles s'en servent comme inspiration, comme tableau, comme moodboard, elles, pour créer après les illustrations correspondantes.
Comment pourriez-vous me donner envie de lire Orphea Fabula en quelques mots?
C'est très drôle, c'est une aventure d'une petite espionne qui voyage dans le temps. Alors, si on aime les Totally Spies et Kim Possible, mêlés à un peu d'Indiana Jones au féminin, je pense qu'on aurait envie de le lire. Et je pense que ce sont des romans qui sont écrits pour les enfants, déjà des enfants qui n'aiment pas lire, parce que pour moi c'est très important de ramener les enfants vers la lecture, mais d'une manière qui ne soit pas coercitive. Donc ne pas les forcer à lire, mais plutôt de les encourager à lire avec des textes qui... les rapproche de ce qu'ils aiment déjà. Donc moi je l'écris mes livres comme des dessins animés, enfin les Orphea Fabula sont écrits comme des dessins animés, et donc avec une prépondérance de l'action qui se déroule à 100 à l'heure, beaucoup d'humour, des gags, etc. Mais ils peuvent quand même être lus par des adultes, parce que comme je le disais tout à l'heure, en filigrane il y a toujours une réflexion politique en fait qui est primordiale pour à notre époque, pour comprendre notre société, comment ça fonctionne. Et notamment le quatrième tome qui est une réflexion sur comment la société patriarcale nuit non seulement aux femmes mais aussi aux hommes. Parce que l'inégalité homme-femme, elle n'affecte pas seulement le parcours des femmes, mais aussi le parcours des petits garçons. Parce qu'elle les prive de certaines... d'une partie de leur humanité, donc l'émotion, la partie artistique des petits garçons qui n'ont pas autant la chance de s'exprimer que les petites filles dans leur plus jeune âge, qui encouragent la masculinité toxique plus tard. Et voilà, c'était de ça que je voulais parler. Et je pense que les adultes auraient grand intérêt à lire des livres qui parlent de ça.
Y a-t-il des auteurs qui vous ont inspiré pour écrire?
Oui, bien sûr. Alors je pense que 80% du travail de l'auteur, c'est pas du tout d'écrire, c'est de lire. Parce que on peut pas vraiment créer quand on n'est pas nourri. En fait, c'est pas copier, c'est pas recracher des formules qui fonctionnent déjà, contrairement à ce que certains pensent, certains éditeurs. C'est se nourrir, c'est vraiment évoluer dans un milieu propice à l'inspiration, il y a une sorte d'émulation symbolique, puisqu'on n'a pas une émulation physique avec d'autres auteurs, mais en fait une émulation dans l'imaginaire qui fait qu'en fait chaque livre va nourrir la plume et l'univers du lecteur qui devient auteur. Et alors moi, parmi mes inspirations principales, évidemment, bah, y a Harry Potter parce que c'est ma génération. Moi, je suis née en 92, donc c'est le premier livre que j'ai lu, je pense, pour le plaisir, quoi, enfin, en dehors de l'école. Pour moi, ça a été décisif dans le désir de créer, parce que l'imaginaire, voilà, ça a vraiment formé mon imaginaire et ça m'a donné envie d'écrire. Puis plus tard, La Passe-Miroir a été une grande source d'inspiration pour moi, en tant que, pareil, en tant que, voilà, complexité d'univers, possibilité de vraiment, Christelle Davos, elle a cette faculté de créer des univers qui sont complexes, intriqués, avec plusieurs facettes, mais sans perdre son lecteur, et ça, je trouve ça extraordinaire. Et en termes d'intrigue, d'action, et surtout en tant que personne, Victoria Schwab, qui a écrit Vicious et Shades of Magic, qui sont édités chez Lumen en traduction, et une grande source d'inspiration, surtout la manière dont elle parle de son travail sur les réseaux sociaux, parce que voilà, c'est une personne qui parle très bien, donc elle me motive au quotidien. C'est un peu grâce à elle que j'ai décidé de lâcher toutes mes... Enfin, d'arrêter de croire que j'allais faire un métier traditionnel et de me lancer dans l'écriture à temps plein.
Est-ce que vous vivez de vos livres ?
Oui, en partie. Alors, j'en ai vécu pendant un an. En fait, je peux en vivre. Aujourd'hui, je fais un 12 heures dans un petit café parisien qui me permet de sécuriser mon loyer. Mais en fait, en soi, je pourrais vivre de mon écriture. C'est juste qu'en fait, le temps de l'édition est très différent du temps civil, entre guillemets. C'est-à-dire que dans le temps civil, c'est un temps mensuel, donc où la paye tombe tous les mois, le loyer tombe tous les mois. Et en fait, la société est structurée sur cette mensualité de l'existence. Donc on doit tout payer, tous les frais sont mensualisés, alors que la vie de l'auteur n'est pas du tout, mais alors pas du tout mensualisée. Moi, je peux avoir deux gros paiements par an et je dois vivre toute l'année avec ça. Et en fait, il y a des énormes moments de surchauffe, donc où tout le monde va me contacter, plein d'éditeurs vont me contacter pour écrire des livres, et puis tout à coup, plus rien, pendant des mois, mais ça peut être 6 mois, où personne ne va rien me commander. Donc plus qu'une dépendance financière, c'est vraiment une dépendance affective, pas affective, mais dépendance de... Morale, du moral, pas de la morale, du moral, parce que en fait, quand je stresse trop, je peux pas écrire, et quand il y a pas d'argent qui rentre, je stresse beaucoup, donc j'écris moins, donc il y a moins d'argent qui rentre, et donc d'avoir un petit job étudiant presque à côté, ça me permet d'être sereine sur le paiement de mon loyer. Il y a au moins une partie qui est mensualisée, et ça me permet de moins angoisser, de me concentrer sur l'écriture le reste du temps, mais voilà.